Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour à tous. Je vois que la salle est encore plus pleine que pour la table ronde sur le cannibalisme. Je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas. Merci de nous avoir rejoints dans cette belle salle 2001. Franchement, je ne me lasse pas de cette salle-là, pour parler psychopathologie et littérature de l'imaginaire, si on résume un petit peu la description qu'il y a sur le programme. Et borderline faisant partie de la panoplie de pathologies. Alors la figure du déviant, ça fascine, la preuve vous êtes tous là, et ça inquiète, peut-être parce que là aussi vous êtes tous là, et ça depuis toujours, dans la littérature, depuis qu'on écrit, on en trouve du fou positif, négatif. Par contre depuis, si on prend Jekyll et Hyde pour rester parler du fantastique, on voit que la littérature, elle s'est quand même bien nourrie des découvertes scientifiques. On est un peu sorti du schizophrène forcément mauvais pour arriver peut-être à, Légion, si vous connaissez le roman, où c'est quasiment un super-héros par sa seule schizophrénie. Les neurosciences ont encore rapporté encore plus de choses dernièrement. Ce qui redessine quand même pas mal notre image du fou, et la positive peut-être un peu, on en discutera. Et comme le paysage est vaste, on n'a pas de scientifique avec nous aujourd'hui, donc on va juste être entre amis et acteurs de l'imaginaire. Donc désolé, on ne pourra pas vous faire d'ordonnance à la sortie. Donc avec moi, du coup, j'ai trois, on aurait dû être quatre, mais peut-être qu'il va arriver. Donc pour l'instant, trois auteurs émérites. On va commencer. Et qui peut-être se demandent ce qu'ils font là. Jean Barret, à ma gauche, qu'est-ce que tu fais là exactement ?
Oui, j'ai trouvé que c'était un peu vexant d'être invité à cette table. Non, mais oui, je pense qu'on a tous, comme tu disais, un attrait dans nos romans pour les personnages un peu borderline, les situations borderline également. La pathologie est toujours intéressante. Parfois même, elle est peut-être un peu plus simple à définir que la normalité, parce qu'on oppose souvent le fou, le déviant à la personne normale, et en réalité la normalité est vraiment très très difficile à définir. Le fou, ou en tout cas les pathologies, sont plus faciles à cataloguer.
Ouais. Et dans ton travail, tu as de la folie qui ressort, ou est-ce que tu...
Dans mon travail, ce sont plutôt les sociétés qui sont folles, ou plutôt notre société qui est folle, et qui, évidemment, a un impact sur les individus qui vivent en son sein. Mais, à mon sens, c'est surtout le tissu social. En tout cas, ce qui m'intéresse de mettre en scène, c'est une certaine folie du tissu social, plus que de l'être humain.
Tu peux rappeler à nos... Pas téléspectateurs, ça a failli m'échapper. Au public, ce que tu dédicaces juste après, je suppose.
Oui, oui. J'ai sorti une trilogie aux éditions du Bélial, Bonheur TM, Vie TM, Mort TM, qui précisément mettent... c'est pas une trilogie à suivre, c'est une trilogie qui peut se lire dans n'importe quel sens et qui précisément met en scène des sociétés un peu folles, ou en tout cas dont un des aspects est particulièrement pathologique.
Oui, c'est très bien, bon à lire. Par contre, venez avec un bon moral à la base, quand même. Par contre, Claire, toi, de ton côté, alors attends, là, c'est donc autrice, éditrice, plutôt en fantasy, Un long voyage qui avait gagné quelques prix, et puis dernièrement, rappelle-moi,
Le cycle de la tour de garde, coécrit avec Guillaume Chamanadjian.
Oui. Qui est une trilogie qui en est au deuxième.
C'est le deuxième tome de la trilogie qui vient de sortir.
D'accord. Et elle est où la folie là-dedans
Alors disons que j'ai l'approche de la folie qui est peut-être plus proche du fantastique, si on doit un peu voir dans quel, de quel côté de la littérature de l'imaginaire on est, dans le sens où on ne sait pas vraiment si c'est vraiment de la folie d'un point de vue diagnostique, entre gros guillemets, ou si c'est quelque chose de plus occulte et de plus surnaturel. Voilà, donc c'est plutôt une espèce de brouillage un peu de frontières, et c'est plus une question de enfin, c'est plus une façon de mettre en question la notion de norme.
Là, j'ai pu m'attendre. Pardon, mais dites donc, vous commencez vraiment à l'heure. Il est 45, quoi.
N'hésite pas à prendre un micro, on va profiter que t'es chaud.
Test.
Alors, juste pour vous dire, j'ai appelé notre ami Kilofert, ici présent.
Ami, on se connaît très peu.
À peine, bon. Mais c'est notre ami à tous, voyons.
Et déjà.
Voilà. Hein? Hier, il m'a dit, mais moi, je ne vois pas du tout pourquoi, ce que je viens foutre dans cette table ronde. Je ne suis pas concerné. Et en fait, bah, je vous laisse juger.
Oui, bon, je n'ai pas fait exprès. Bon, c'est très mal indiqué, je trouve. Mais... C'est vrai que j'aurais pu mieux m'y prendre.
Ouais. Alors, on
faut dire que je buvais une bière devant l'eau.
Voilà.
Hein, ça au bord de l'eau.
Alors, je vais faire un petit aparté filmique qui vous allez trouver complètement incongru, mais dans un film genre Supercopter, il y avait un pilote qui passait son temps à regarder sa montre et à essayer de savoir de compter dans sa tête et vérifier qu'il était bien synchronisé, parce qu'il était sûr que ne pas avoir une bonne perception du temps était une preuve de folie. Tu vois ? C'est tout.
Oui, bah, je ne suis pas d'accord. Non, j'avais conscience d'être un peu à la bourre, mais pas à ce point-là.
Voilà.
Vous êtes sûr de ne pas avoir commencé un peu en avance ?
Non.
C'est vraiment moi le fou, quoi.
Ben, en fait, ouais, il faut t'acheter une montre. Mais bon, bref.
Alors, non, mais alors, tu as raison, c'était ma première réaction. Qu'est-ce que je fous là-dedans ? Parce que moi, je trouve que je suis quelqu'un de complètement normal. Hein,
alors, rappelle ton métier, parce qu'au moins qu'on soit sûr qu'on est bien entre auteurs.
Oui, je fais des bandes dessinées.
Voilà.
Et plus largement, je fais des dessins.
Et fondateur de l'association, un co-fondateur de l'association.
Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi tu te sens concerné, en fait, qu'il offert Après tout, il pouvait juste s'agir de ce dont tu parles et pas de toi. Hein.
Tout à fait. Donc tu t'es senti visé, un peu de paranoïa.
Alors, je me suis senti visé parce que, bon, en ce moment, j'ai des problèmes avec les gens. Ils trouvent que je ne suis pas gentil ou des choses comme ça. Ou pas, que je ne me comporte pas très bien. Et puis, il y a aussi le fait que quand je fais de la bande dessinée, je me sers de mon personnage, de moi. C'est pour ça que je me suis tout de suite senti visé. Après, je n'ai pas spécialement le sentiment de parler spécialement de la folie ou des états borderline, mais je suis désolé d'avoir accaparé comme ça la scène, alors qu'en plus, je suis en retard.
Mais ça tombait bien à propos. Alors, et puis bon, quand on est rédacteur en chef d'un trimestriel qui s'appelle Mon Lapin Quotidien, on n'est peut-être pas invité pour rien non plus.
Oui, en fait, j'ai arrêté.
Ah, je savais
quelques
pas.
Numéros. Oui, je me suis contenté de créer la chose et puis après.
Oui. Alors du coup, par contre, tu viens pour dédicacer, rappelle-moi, pour la dédicace qui suit.
Oui, c'est pas obligé. Hein,
on est là pour ça aussi quand même.
Je sais pas ce que les livres de moi qui seront là.
Le dernier, mettons.
Le dernier s'appelle Kilofert en chair et en fer. Je ne pouvais pas échapper un jour de faire un titre avec un jeu de mots sur mon nom, parce que c'est mon vrai nom, Kilofert. Oui, ça commence là, les problèmes, quand on s'appelle Kilofert.
Voilà.
À l'école, c'est pas évident.
Voilà, donc vous voyez, on est en fait bien entouré. Et alors, je vais quand même présenter le dernier qui a l'air de s'endormir, là. The last but not the least, ou l'inverse, je ne sais plus. Karim Berouka, hein, chanteur parolier de Ludwig van 88, déjà tout de suite, ça en impose. Et un grand spécialiste du zombie, de Lovecraft. De détournement de Lovecraft et autres joyeusetés gluantes et baveuses, et auteur entre autres d'un titre qui m'a toujours bien fait délirer, les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables, par exemple, celle-là elle est pas mal. Et donc du coup, toi, es-tu fou?
Non, ça va, moi.
Okay. Et la folie dans ton œuvre pléthorique?
Je sais pas, enfin, je les trouve bien, les gens qui sont dans mes bouquins.
Ils sont tous barrés, mais.
Oh, fou, voilà. Non, enfin.
C'est un carburant aussi, un peu, peut-être.
Un carburant.
Pour de créativité.
La folie ?
Ouais.
Non.
Ben voilà.
Non.
Eh ben, on va s'arrêter
non,
là.
Mais je les trouve pas. Je les trouve très bien dans leurs bouquins. Ils sont
voilà. Alors, on dit toujours aussi que les fous sont jamais conscients de l'être. Donc. Voilà. Voilà. Mais alors, du coup, par contre, bah, puisque personne n'est concerné, on va faire de la...
On va parler cuisine.
Voilà.
Bah, ouais, ça tombe bien, c'est ma spécialité. Non, mais par contre, vous en avez tous lu des livres avec des fous, vous avez tous vu des films avec des fous. Si jamais je vous demandais, justement, là, d'un coup, je suis éditeur, puis je voudrais avoir une vision, votre vision moderne de la folie dans votre vin. Ah oui, j'y vais carré. Hein. Et puis une éditrice ici, ça peut peut-être... hein. Franchement, vous aimeriez écrire sur quoi si on vous ordonnait d'écrire sur la folie? Je crois que Jean, tu médites à fond, là, je te vois.
C'est déjà un peu fou d'ordonner à quelqu'un d'écrire sur la folie. On est d'accord.
J'ai jamais dit que j'étais saint d'esprit.
Ah ok, ça me rassure. Si on m'ordonnait d'écrire sur la folie, bah j'essaierais de trouver qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, la folie. Comme je disais tout à l'heure, c'est en général par opposition à ce qui ne l'est pas, à ce qui est la normalité. On a traité la folie différemment, on la traite aujourd'hui différemment de ce qu'on le faisait au 19e siècle ou au 20e siècle. C'est plus... Enfin, on ne la considère pas de la même façon. Sans doute que si je devais écrire un livre avec un fou, l'intérêt, ce serait de mettre en lumière la différence entre sa façon de voir la vie et la façon dont les autres voient la vie. Et puis, toujours ce vieux classique de « on est le fou d'un autre ». Et puis aussi que c'est peut-être tous les autres qui sont fous, sauf soi. Ça arrive peut-être pas souvent statistiquement, mais c'est possible quand même que... De temps en temps, il y a un fou qui a raison et qui soit traité comme fou parce qu'il pense quelque chose qui n'est pas acceptable, mais ce qui n'empêche pas pour autant qu'il soit peut-être dans le vrai. Enfin, tourner autour d'idées comme ça, mais toujours pour mettre en parallèle avec le reste du tissu social.
Ouais. Laisser ressortir la folie normale qu'on ne voit pas peut-être, c'est ce que tu veux dire ?
Oui, c'est toujours un sujet très intéressant. À ce moment-là, on peut partir sur tout ce qui est refoulé, le grand retour du refoulé, mais version SF. Alors oui, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un peu la base de cette histoire. Je lisais dans le sujet l'incroyable Hulk qui était cité. Ben oui, c'est même carrément ça. C'est-à-dire le fait de faire, par un produit ou par une radiation, ressortir, mais alors cette fois-ci, à travers le corps, Là, tout ce qui est pulsion refoulée, tout ce qui est borderline, au vrai sens du terme, c'est qu'on ne s'autorise pas à penser, mais qu'on pense quand même. Alors oui, la SF permettrait ou a déjà permis de décaler cette situation dans le corps, l'incarner. Ça, c'est bien sûr intéressant, mais bon, ça reste en effet un classique, mais il y a peut-être moyen de réfléchir à lui donner une tournure plus moderne.
Ouais, d'autant que dans les cycles de comics, pas trop dans les films, hein, ou la vieille série, mais Hulk, justement, on exploite énormément ses problèmes psychologiques, ses liens avec ses traumatismes d'enfance.
Hulk a en plus des problèmes psychologiques. Waouh!
Ah oui.
Ah ben les rayons avec son père, ils en ont fait un cycle entier. Quoi.
Les rayons gamma sont censés précisément permettre à une personnalité, ou plusieurs personnalités, il y a plein de versions de Hulk. De s'exprimer à travers le corps. Et effectivement, Bruce Banner avait un père très violent qui le battait, etc. Et il refoule cette violence qu'il a en lui d'envie de tuer son père. Et les rayons gamma lui permettent de l'exprimer et de devenir cette force destructrice aveugle, enfantine. Enfin, pas toujours, parce que oui, effectivement, les cycles de comics sont très, très, très fluctuants. Mais oui, ça peut être une bonne façon d'illustrer ça. Oui.
Quelqu'un a envie de rebondir là-dessus ?
Sur Hulk ou
sur ce que vous voulez.
Oui, sur Hulk.
Mais je sais pas, moi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et puis Hulk, je vois pas où est la folie là-dedans. En fait, c'est juste. Déjà, les histoires de folie, je trouve ça un peu limite parce que. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Comment on définit ça ? Genre, il y a des gens parmi nous qui sont complètement cinglés, mais ils sont pas spécialement. Ils n'ont pas une pathologie qu'on peut classer dans la psychiatrie. Et puis bon, bah voilà, Hulk, c'est son côté, il réveille le punk qui est en lui, tu vois. C'est sa personnalité, je sais pas quoi. Et Dr. Jekyll, c'est les deux côtés, c'est le côté sombre. C'est un peu de la schizophrénie, mais du côté mystique, parce que ça se passe pas comme ça, quoi. Les gens, quand ils ont des problèmes de schizophrénie, ils sont pas le matin à peindre des petits oiseaux, puis le soir à égorger des gens. Enfin, certains, si, sûrement.
Il y a peut-être une idée sous-jacente à ces deux personnages, qui est quand même la dissociation d'identité, le fait d'avoir un autre en soi, qui ne pense pas comme nous, j'allais dire en temps normal, avec le vrai sens du terme normal dans la vie, qui, à travers un produit, une radiation ou autre, d'un coup prend le pas et s'exprime, parce que ces personnages, lorsqu'ils sont sous l'effet de la substance en question qui transforme leur corps, c'est aussi un autre esprit qui vient. Ils ont l'incroyable Hulk, n'en parlons pas, et Bruce Banner ne sait pas ce qui advient de ce qu'il commet quand il est l'incroyable Hulk et vice-versa. Donc il y a quand même cette idée qu'il y a plusieurs personnalités, ce qui est tout de même un peu... On commence à glisser vers la folie, enfin en tout cas ça dépend comment on appelle la folie, mais oui, on commence à glisser vers la pathologie. Et surtout cette idée qu'on n'est pas un moi unifié, qu'on n'est pas toujours nous, qu'on est multiples, et que certains de ces multiples, on se les cache avant de les cacher aux autres, et de temps en temps ils ressortent. Et ils ressortent avec violence ou avec... En tout cas, bon, quand c'est un roman, il vaut mieux que ce soit avec violence, parce que c'est toujours plus sympathique à lire. Donc voilà, il y a cette idée-là quand même, je pense.
Oui, je pense, enfin, pour moi, sur ce que disait Karim, je ne suis pas sûre que Stevenson voulait écrire quelque chose sur la folie quand il a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et que c'est plus une façon de parler de la dualité, des multiples facettes qu'on peut avoir. Enfin, c'est plus ça. Alors, effectivement, je pense que si on essaye d'en parler en termes de pathologie, évidemment, on va trouver un peu des points communs ou des choses comme ça, mais je ne pense pas qu'à la base, c'était vraiment une fiction qui avait pour but de... Parce que surtout que la pathologie à l'époque de Stevenson, c'est sûr que c'était pas la même chose que maintenant, quoi. C'était pas caractérisé de la même manière, c'était pas vu de la même manière, quoi. Donc je sais pas. Mais et des romans sur la folie, oui, il y en a. Après, tu demandais à la base, en fait, qu'est-ce qu'on écrirait si on nous demandait un roman sur la folie. Exemple. Moi, je trouve ça un peu compliqué, parce qu'effectivement, déjà écrire un roman sur un thème, bon, voilà, quoi. Enfin, ça fait roman à pitch, quoi. Après, moi, j'ai plutôt les pièges. Enfin, c'est comme écrire un roman sur l'ennui. On prend le risque d'être ennuyeux. Écrire un roman sur la folie, qui veut vraiment être sur la folie, à l'image de la folie, on risque d'être pas très compréhensible.
Je suis tout à fait d'accord. Fait, ouais. Moi, si je devais faire un truc sur la folie, je raconterais l'histoire de quelqu'un qui, le matin, il y a une machine qui le réveille, et puis ensuite, il se jette dans des rames de trains bondés très tôt le matin pour aller bosser toute la journée pour un patron qui va l'exploiter, et ça pendant toute sa vie. Et ce serait vachement chiant comme récit, quoi. Ou alors je raconterais l'histoire d'un homme politique qui a fait toute sa carrière en disant « Ouais, ces gens pauvres, c'est eux le problème, et puis il faut produire plus et consommer plus. Hein » Je raconterais des trucs comme ça, mais c'est vrai que ce serait très chiant, quoi.
Mais... Et blague à part, en termes de narration, c'est sûr qu'effectivement, on peut avoir un narrateur qui est fou. Et ben voilà, enfin, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, on a un twist, genre, oh là là, ce que le narrateur nous disait, c'est pas vrai. Bon, c'est quand même un peu.
Moi, j'ai un super exemple de. Alors, on va pas dire fou, parce que moi, je trouve que c'est pas très, très, très sympa. D'une personne qui a des problèmes psychiatriques importants. C'est un livre qui s'appelle La fille qui se noie. Qui est sorti il y a quelques années chez Panini, qui faisait des bouquins pendant un moment. Et c'est l'histoire d'une jeune fille aux États-Unis qui est schizophrène, mais on ne le sait pas. Elle raconte son histoire, c'est comme un journal. Et à un moment, elle décide d'arrêter ses médicaments au fur et à mesure. Et c'est l'histoire vraiment d'une personne qui bascule dans un monde où elle n'arrive plus à être en phase avec la réalité. Et c'est vraiment super bien fait. Ça part dans tous les sens. C'est pas facile à lire parce qu'effectivement, elle écrit, c'est son journal. Je ne sais pas comment l'auteur a fait ça.
Ça veut dire que petit à petit, le discours se met à évoluer.
Le discours change. Ouais. Au début, elle est un peu maniaque. Elle va raconter 5 fois la même chose, des trucs comme ça, des trucs assez anodins. Mais quand même, tu dis, mais l'auteur ne sait pas écrire ou quoi, merde. Et puis en fait, rapidement, on s'aperçoit que ben, l'auteur s'est mis dans la peau d'une personne qui a des problèmes psychologiques, psy-trucs. Voilà, et qui arrête ses médicaments et qui commence à partir complètement en live, et c'est super bien fait. Alors je me rappelle qu'il, je vais regarder sur la machine à information.
J'avais un fantasme, c'était d'écrire, de raconter une histoire très bien structurée, très normale, mais et ça changerait pas en fait d'écriture, mais ce serait le lecteur qui finirait par comprendre qu'il a affaire à un fou.
Oui, bah c'est un peu le.
Mais je crois que là, c'est complètement banal comme idée, en fait.
C'est le type de narration effectivement que j'ai décrit, c'est qu'effectivement ça se fait énormément. C'est le narrateur non fiable, quoi.
Ouais, mais c'est pas évident de comprendre à la fois te dire. C'est un peu comme le Algernon, comment s'appelle les.
Fleurs pour Algernon de
Fleurs pour Algernon, où au fur et à mesure il devient intelligent, puis ensuite ça. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin, mais c'est quand même un classique.
Faut le lire si vous l'avez pas déjà lu, et prenez un paquet de mouchoirs avec. Hein.
C'est, en gros, c'est. Je me rappelle,
quelqu'un m'en refait. Oui, en fait, un scientifique prend le balayeur de son laboratoire, qui est handicapé mental, avec un QI très bas, pour lui booster le coefficient intellectuel et en faire un vrai génie. Et le vrai génie, donc on le voit qu'il devient de plus en plus intelligent, qui fait des découvertes, qui cherche d'ailleurs, qui fait des recherches sur lui-même, parce qu'il est devenu plus fort que son créateur. Et personnage très positif, en plus il rencontre l'amour et tout. Et arrivé au sommet, donc à l'apogée de son bonheur, il.
Il attrape un rhume.
Non, chaque fois que je parle de ce bouquin.
Oui, c'est un roman vraiment triste, donc.
Donc. Au sommet, il découvre qu'il va tout perdre. Et donc, il passe son temps à essayer de lutter contre la dégénérescence mentale qui l'envahit. Et là, vous avez besoin de mouchoirs. C'est magnifique. Il y a une pièce de théâtre qui est pas mal tournée sur région parisienne, en tout cas, et dans le monde aussi, qui a été tirée de ça pour ceux qui ne voudraient pas le livre. Sinon, le livre est assez court. Il y a une nouvelle aussi. C'est tiré d'une nouvelle à la base. Et franchement, il faut le lire. Si vous ne l'avez pas lu, vous le mettez dans votre pile à lire tout au-dessus.
Des fleurs pour Algernon.
Et le nom de l'auteur,
c'est quoi son prénom? Je ne sais plus. K-S, non? K-E-Y-E-S.
On est bon en nom, nous.
Le public sait.
Oui, c'est bien. Faites tourner.
Voilà.
Si vous voulez, on peut... ça a cassé l'ambiance, cette histoire, c'est trop triste.
Non, c'est voilà, c'est le. Alors sinon, dans le genre de bouquin de SF qui traite de la folie, il y avait un bouquin de Philippe K. Dick qui s'appelle Les clans de la lune alphane. Et bon, alors c'est pas du tout le même genre. Ça se passe sur la lune, il me semble, ou sur Mars, je sais plus. Et en fait, on a foutu tous les gens qui avaient des problèmes psychologiques sur la lune, on va dire. Et donc, ils sont un peu regroupés par clans. Donc, on a les schizophrènes, les ébéphrènes, et bon, je ne me rappelle plus. Enfin, bref. Et donc, ils se tapent dessus entre eux. Il y a des sortes d'intrigues. Et bon, je crois que Dick a quand même pas mal bossé sur la folie et les problèmes de perception de la réalité. Et donc, voilà. Un classique que vous pouvez lire.
De toute façon, la schizophrénie, ça transparaît dans l'œuvre de Dick un peu partout.
Surtout à la fin, là, quand il fait ses mémoires et qu'on ne comprend absolument rien.
Surtout paranoïa.
Paranoïa, là.
Si, ouais.
Il a fait.
La paranoïa est un très bon vecteur d'histoire. Hein. C'est excellent. Pour créer des histoires, il n'y a rien de mieux que la paranoïa. Un paranoïaque, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'invente des histoires, hein, quand même, principalement. Et puis des histoires où il y a des gens qui lui en veulent. Donc il y a des méchants, c'est pas mal.
Ouais, qui sont peut-être pas méchants en fait, donc complexes. Oui, pas mal.
Sinon, très bon bouquin, là, d'un vrai fou, c'est les Mémoires d'un névropathe du président Schreber. Je dis président parce qu'il s'avère que c'était un président de tribunal, c'était un juge allemand. Bon, il s'est avéré qu'il se masturbait pendant les... pendant les procès, des choses comme ça. Puis, non, mais il a écrit deux livres, je crois. Je crois qu'il y a une Mémoire d'un névropathe 1 et 2. Bon, il avait vraiment des gros problèmes psychiatriques. Il imaginait qu'il était la putain de Dieu, des trucs comme ça. Et c'est passionnant à lire parce que c'est il y a quelque chose de très logique hein, dans tout ça. Mais et ça produit vraiment des images. Moi, c'est Paco Mtielman qui m'a fait connaître ce livre et il avait demandé à une ribambelle d'artistes d'illustrer ça. Moi, je me suis régalé, quoi. C'est fabuleux. Il parle à la fois de la religion, la vieille religion zoroastrienne. Oui, Zoro quelque chose. Et mais ça parle aussi de. C'est tellement foisonnant. Ça parle de Dieu beaucoup. Ça parle de changement de sexe. Il y a dans ce livre aussi des espèces de fulgurances. À un moment, il y a une espèce de prescience de ce que va être le nazisme. Cette histoire se passe dans les années 20. C'est fabuleux. Mais quelque part, en fait, quand on raconte une histoire, on raconte toujours des choses un peu. Vous êtes au courant que les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Les trains qui sont en retard, c'est fou, quoi, quand même. Moi, ça me rend fou, personnellement. Mais
ce qui peut conduire aussi à des perceptions un peu néfastes pour les personnes qui sont atteintes de ces troubles-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de psychopathes, on lit des romans, des thrillers où ce sont des psychopathes qui tuent. Et ça peut aussi induire aussi une peur des gens qui ont des maladies, en fait, qui sont, enfin, une impression qui est quand même forgée par ces fictions qui nous disent attention, ces gens sont dangereux, alors que les trains arrivent à l'heure aussi. Ça peut être aussi problématique de se complaire un peu dans l'image du malade dangereux.
Oui, parce que même chez les psychopathes, le pourcentage est très loin d'être anodin. Par contre, les psychopathes dangereux, c'est un pouillème de ce. Du nombre de psychopathes. Quoi. Vous avez des psychopathes dans cette salle. Ils sont peut-être inoffensifs.
Ils ne sont pas tous sur scène. mais du coup, comme on parle toujours plus ou moins de trucs détraqués, quoi. Parce qu'en fait, parler de quelque chose de normal, hein, c'est chiant, on ne le fait pas, par définition.
Bah, ça dépend, tu peux faire du nouveau roman, tu vois.
Eh ben non, le nouveau roman, c'est une espèce de plongée comme ça dans la psychologie. Enfin,
dans rien du tout, non ?
Si, dans un. Bah, si,
je dis ça, mais j'adore. Hein. Mais.
Franchement, Beckett, franchement, si on n'a pas affaire à une sacrée bande de tarés, je vois, parce que. C'est quand même c'est assez barré, quoi, quand même.
C'est vrai que Rob Grillet, etc.
Mais je voulais dire que, du coup, c'est. C'est un peu comment dire tautologique de parler vraiment de la folie quand on raconte quoi que ce soit finalement, puisqu'on sait déjà qu'on est dans du détraqué, qu'on est dans de l'anormal. C'est pour ça que moi ça me gênait un peu. C'est pour ça que je me demandais ce que je foutais là, parce que quand j'ai envie de raconter une histoire, je me dis pas ah ouais ça va être dingue. Ça marche pas comme ça. Puis je me dis pas je vais parler de la folie. À la limite. On va essayer de rendre son histoire détraquée la plus plausible, normale. C'est comme quand on prend un film au milieu. On arrive dans une situation absolument incroyable et on se dit, mais comment en est-on arrivé là ? C'est pas possible. Après, on reprend le film au début, puis on suit l'histoire, et puis ça semble tout naturel d'en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, l'idée, c'est pas d'essayer de faire le récit le plus dingue possible, c'est d'essayer de raconter le plus linéairement, le plus naturellement possible, de rendre quelque chose de dingue vraiment lisible et communicable. Parce que quand vous rencontrez un fou, évidemment, c'est un choc. Mais si vous vivez avec lui, c'est différent. Vous commencez à comprendre sa folie. C'est pour ça que c'est intéressant de lire ce qu'a écrit Schreber. Le type raconte sa folie. Bon, Schreber, c'est autre chose, parce que lui, il va quand même très très loin, quoi. Mais...
Ouais, le fou a ses raisons et c'est le principe d'ailleurs de tout ce qui est de psychologie et tout ce qui est neurosciences, c'est de comprendre les fonctionnements et donc ramener à la normalité. Quoi.
Oui, et puis je voulais parler en tant qu'auteur, quoi.
Oui.
On va pas appuyer sur le côté, on va pas dire sans cesse à son lecteur, regardez comme il est fou, quoi. Tu vois. On va plutôt essayer de faire rentrer le lecteur dans la vie de ce fou ou l'inverse. Ou pas. Ah oui, il faut jamais oublier à chaque fois qu'on dit un truc auquel on croit de dire ou pas. Parce que c'est vrai que, surtout en art, tout est possible. Et s'il y a des règles, elles sont là pour être transgressées, bien sûr.
Ou pas.
Il y en a un qui suit.
Et alors du coup, avec tout ça, on sent que la folie, là, ça fait plus peur à grand monde. Là. On est tous des grandes personnes par rapport à autrefois. Où, si on prend tous les livres sur la folie que j'ai pu chercher anciens, on essayait quand même un peu de faire peur au lecteur avec la folie. Non, vous ne pensez pas ?
Si, mais je pense qu'on a une, aujourd'hui une... J'allais dire une souplesse vis-à-vis de ce qui est la norme et de ce qui est être censé devoir être protégé par le tissu social. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'acceptation, dans l'ouverture de la différence, on va dire, au sens vraiment large, qu'à une époque où il fallait avant tout sécuriser au maximum les relations humaines et la normalité ou la dite normalité, quitte à l'imposer et à faire peur sur tout ce qui était justement déviant de cette normalité. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus conscient que... Ouais, il nous faut un minimum de normalité quand même, mais on est beaucoup plus conscient de ce qu'il y a beaucoup de factices et de fictions dans des tas de choses et qu'on peut être plus ouvert à... des visions différentes. Alors oui, le psychopathe qui se met à tronçonner, c'est semblable. Non, on ne pourra toujours pas l'accepter parce que voilà, c'est pas acceptable. Mais dans un corps social. Mais même le psychopathe qui tronçonne son semblable, il sera de toute façon pas traité de la même manière que ce qu'on le traitait à l'époque. On aura de toute façon plutôt une volonté de je sais pas, d'étudier son cas, d'essayer de l'aider à aller mieux, plutôt que de l'enfermer à tout prix ou le tuer. Et ça, c'est les cas les plus extrêmes, en tout cas ceux qui sont les plus dangereux pour le corps social. Après, quand c'est une conception de la vie, disons que, à nouveau, les gens normaux vont considérer comme folle, si elle n'est pas source de destruction et de tuerie de masse, on va l'accepter beaucoup plus.
Et donc, alors du coup... Donc, Claire.
Je veux dire, juste pour rebondir qu'effectivement, finalement, le spectre de la normalité était beaucoup plus étendu qu'à une certaine époque et qu'effectivement, il n'y a plus un type de normalité et qu'on intègre beaucoup plus différentes façons d'être. Bon, je ne dis pas qu'il y a du chemin à parcourir encore, effectivement, mais effectivement, on n'est plus dans les années 50, on lobotomisait les femmes au foyer parce qu'elles étaient malheureuses, en fait, et encore heureux. Et si on remonte encore plus dans le temps, voilà, des comportements qui étaient considérés comme tout à fait déviants et anormaux sont évidemment tout à fait acceptés maintenant. Et ça nous montre aussi que, moins que les frontières de ce qui est considéré comme fou, les frontières de la folie, c'était peut-être plus les frontières de la normalité qui s'étendent et qui se brouillent un peu plus. Et c'est là que ça devient aussi intéressant d'un point de vue narratif. Enfin, voilà.
Non, mais est-ce que l'acceptation s'élargit ou est-ce que juste elle change de polarité ? Parce que bon, aujourd'hui, quand même, un ouvrier qui fait grève est un preneur d'otages. Il faut bien se rendre compte, quoi. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un peu de folie, quand même
Oui, là, on est sur la folie collective et sociale.
Arriver quand même à décrire des gens qui se battent pour leur salaire de cette façon-là, quoi. Je veux dire, où est la folie ? Je veux dire, est-ce que les médias sont pas complètement tarés à ce niveau-là, quoi ?
Et donc, la folie sociale, du coup, dont on en parlait au début, là, t'en reparles. Ça vous évoque quelque
chose ?
C'est
toujours un truc social, la folie. C'est toujours une question de normes, quoi, évidemment.
Oui.
Bah, si. Bon.
Bah. Oui, souvent quand même. D'autres. À nouveau, à part le à psychopathe part qui tronçonne. Là, en effet, c'est un phénomène social.
Ouais,
c'est pas une question. Oui, ça dépend qui tronçonne, c'est ça ?
Bah, ouais, et puis.
Je comprends bien.
On peut imaginer une société de tronçonneurs, quoi. Enfin, je sais pas. Dans oui, certaines conditions.
Elle durerait pas très longtemps, je pense, mais.
Oui,
ça s'appelle l'Highlander et non, à la fin
pas, on,
ça,
mais... on se tronçonnerait mais pas n'importe comment, pas à tout.
Ah oui, entre amis. Il faut des règles de tronçonnage quand même.
Voilà, quelques règles de tronçonnage.
Ouais, ou des rites.
Il faut toujours des règles, des rites, voilà. Des règles. Il en faut toujours un minimum.
Non mais il y a un côté sur ce qu'on appelle la folie dans l'écriture comme dans le cinéma. Il y a un côté mythifié parce que c'est pas drôle. Hein. J'ai un pote qui bosse dans un centre où il a vraiment des schizophrènes graves qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Les histoires qu'ils racontent, elles ne sont pas drôles. Pas un moment, c'est glamour. Pas un moment, tu as envie de dire « Ah ouais, c'est marrant ». Alors que dans les films, il y a quand même un côté assez fascination de, justement du schizophrène ou du tronçonneur, de ce qu'on veut. Il y a aussi, même dans les bouquins, la folie, c'est que, tu vois, C'est quelque chose un peu de romantique.
Non, c'est très vrai,
les vraies pathologies, c'est pas du tout drôle. Genre, les gens, ils sont pas en train de kiffer de voir des martiens dans leur chambre ou de parler. Mais, bref.
Bah oui, c'est principalement de la souffrance, hein, c'est vrai. T'as complètement raison. Quand on lit les mémoires du président Schreiber, on s'en rend bien compte, quoi. Parce que là, on a un fou qui veut convaincre son lecteur qu'il a raison, quoi. Et il parle sans arrêt de sa grande, son immense souffrance, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent présenté d'une façon un peu glamour, pardon. C'est comme les serial killers, quoi.
C'est vrai, pour moi, c'est pas seulement social. On peut pas dire tout ce qui est folie, ça vient forcément juste de la société. C'est pas
vrai.
Il y a des vraies pathologies et il y a des vrais gens qui, effectivement, peuvent contrôler, vivre avec, grâce à des progrès scientifiques. Et effectivement, eux, c'est pas parce que la société est terrible qu'ils sont
bien sûr, mais je voulais dire dans nos représentations, quoi, et puis souvent dans les œuvres qui sont produites, quoi, c'est souvent moins dans les œuvres, quoi, mais il y a une grande part quand même de questions de normes qui entrent en jeu, quoi. Mais effectivement, il y a des folies objectives, on pourrait dire. Bien qu'en vrai dire, quand je dis ça, je m'entends dire ça, ça n'a aucun sens, quoi. Folie objective.
C'est ça qu'il faut réussir un peu à faire la part des choses entre effectivement le côté très romantique d'un personnage fou. Genre, ah, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça parce que je vais pouvoir le faire réagir comme ça, parce que tu vois, il est fou, j'ai pas besoin d'expliquer, enfin des trucs comme ça. Et le fait que, bah ouais, mais en fait, quelle image de la folie on donne, quoi. Enfin.
C'est des questions qu'il faut se poser
en tant que créateur aussi, de temps en temps, quoi.
Enfin, bon équilibre. Attends, on a déjà les féministes, les woke, tout ça. Si on a les fous maintenant, en plus, tu vois.
On est désolé.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Par contre.
Déjà qu'on peut plus rien dire, on peut encore se foutre de la gueule des tarés, quand même, non?
Aidez-moi.
Je suis ravi d'être là.
Non, mais je plaisante, évidemment, mais. Non, mais c'est... est-ce qu'il y a des exemples d'œuvres où on sent vraiment la souffrance Moi, le seul exemple que je vois, c'est les mémoires d'un névropathe de Schreiber, quoi. Mais il doit y en avoir d'autres, forcément, quoi.
Ben, franchement, dans Dick, on sent bien la souffrance de l'auteur, déjà, qui, à mon avis, quand même, avait un souci.
Artaud, très juste. Il ne met pas tellement en avance la souffrance, Artaud, je trouve. Oui, mais c'est en filigrane.
On la ressent surtout quand on écoute ses enregistrements vocaux, où il a vraiment une voix excessivement étrange et on sent vraiment qu'il y a un problème.
Et puis c'est le fait qu'on sache qu'il a été interné en hôpital psychiatrique, quand même, ça doit jouer. Mais c'est pas quelque chose qui met en avant. Peut-être que si on la ressent, c'est parce qu'on a un sous-texte.
Et Lovecraft,
d'autres exemples?
Lovecraft là-dedans peut-être.
Bon, Lovecraft n'était pas fou, il était juste raciste.
Franchement, je sais pas ce qu'en pense ceux qui ont plus lu que moi, mais je sais pas ce qu'en pense ceux qui l'ont plus lu que moi, mais il me semblait quand même pas très sain d'esprit.
Il était raciste.
Sans qu'il soit fou lui-même, effectivement, ses personnages basculent.
Oui, déjà.
Et lire régulièrement, pratiquement toujours dans la folie, quoi.
Ouais, mais voilà, justement, Lovecraft, c'est un exemple du type qui va vous dire « Ah là là, il est fou, il est devenu fou, il est dément. » Mais c'est chiant, quoi.
Ouais, non, c'est pas chiant.
Ah, c'est un peu chiant, Lovecraft, quoi.
Bon, ouais, si tu préfères. Ouais. C'est vrai que c'est vrai.
On discute pas
c'est
les goûts.
C'est super chiant. Non, mais là,
c'est pas une question de goût, j'ai raison. Hein. C'est objectif, là.
Pardon, excuse-moi.
J'ai vu ça.
Je veux pas contrarier.
Non, mais quand on est ado, c'est super, Lovecraft, c'est super, mais quand on est grand. Quel adulte aime encore Lovecraft ici?
Quand on est grand, on lit Marc Lévy.
Levez les mains, les adultes.
Moi, j'aime bien Lovecraft.
Ouais, y en a très peu.
Moi, j'aime bien l'univers pour des jeux de rôle, c'est terrible. Peu. Effectivement, les personnages deviennent fous à chaque fois, c'est quand même assez amusant en tant que jeu de rôle, je veux dire. C'est assez marrant.
Ah oui, oui. La folie de Lovecraft est très bien.
La folie de Lovecraft, c'est aussi une sorte de supraconscience. Hein. Tu passes dans un niveau ailleurs de la conscience de la réalité. Tu es fou, mais pas si fou, quoi, en fait. Tu vois des trucs tellement inhumain que ça te fait perdre tes repères.
On en revient à cette vision qui est très héritée du fantastique, où finalement on devient fou sous l'influence d'une créature qui blablabla, tout ça, quoi. C'est effectivement une folie qui est induite.
Oui, mais qui existe aussi. Hein. Enfin, pas en rencontrant les créatures de Lovecraft, mais on a des vrais chocs dans les vies. Ça peut vraiment faire...
En lisant le livre de l'arabe fou...
le Necronomicon.
Oh, il faut pas dire ça.
Le livre qui rend fou, oui, pour le coup.
Ah, ça, on a le droit, ça.
Ah bon. Ah, je confonds avec Voldemort toujours. Voilà.
Mais je sais plus ce qu'on disait, mais c'était pas.
Je suis désolé de niveau de ce débat.
Juste sur pour fermer la parenthèse sur Lovecraft. Ce que je trouve.
La fermée, tu es bien présomptueux.
Non, la fermée, là, la fermée tout court. Je me pose mon micro. Non, la fermée juste sur notre discussion à tous. Non, c'est que ce qui est intéressant, c'est les personnages qui deviennent fous. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu appuyé, beaucoup appuyé, c'est même sa marque de fabrique. Mais ils deviennent fous parce qu'ils sont confrontés à une réalité qui fait exploser leur compréhension de ce qu'ils pensaient être la réalité. Et c'est très banal, et voilà, c'est pas Lovecraft qui a inventé ça, c'est pas la question, mais ce qu'on a appelé, je crois, le cosmicisme, c'est-à-dire le fait de réaliser que nous sommes des créatures insignifiantes perdues dans des abysses aveugles et que nous n'avons aucune valeur et rien d'intéressant à vivre et à apporter.
Ça, c'est de la lucidité.
Oui, c'est de la physique, en fait.
Oui, c'est de la lucidité, oui, mais justement...
La folie, c'est justement de penser qu'on est au centre de l'univers.
Oui, mais justement, ce n'est pas de la folie de penser qu'on est au centre. C'est un moyen de sauvegarde pour continuer à exister. Ah, oui. Et ce qui peut rendre fou, mais ce n'est pas de la folie de le penser, mais ce qui peut rendre fou, c'est de se confronter à cette réalité qui, précisément, nous enlève une conception, une sauvegarde.
Mais là, je ne parlerais plus de folie, du coup, je parlerais de trauma.
Oui, mais...
Est-ce que les traumatisés sont fous? Oui, bon...
Mais qui rend fou? Enfin, dans le cas de Lovecraft, ça rend fou. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter la réalité. On ne peut pas supporter d'avoir une entité qui fait la taille d'une galaxie.
Mais en fait, c'est une folie de croire qu'on est au centre de l'univers. Finalement, comme vous disiez, c'est une façon d'exister, tout simplement, et de résister aussi à l'entropie de l'univers, tout simplement. Donc, finalement, la folie, est-ce qu'on pourrait pas la définir aussi comme un système de défense?
Oui.
Bonne remarque.
Tu vois que c'est moi qui ai fermé la parenthèse.
Allez.
Il est très fort.
Il est fort pour fermer les parenthèses.
Pour fermer les parenthèses.
Ah, ça.
Je sens que je vais en ouvrir une.
Oui, justement, quelqu'un veut empêcher la parenthèse de se fermer en rebondissant?
Non, non, surtout pas. Je dois rien dire.
Alors, comme j'ai reçu une question sur Twitter, je suppose qu'il y en a.
Non.
On peut peut-être déjà attaquer les questions.
Tu as le droit de regarder ton portable pendant les conférences?
Bah, je suis le chef.
Attends, je vais regarder un truc.
Vas-y, fais un live tweet. Hein.
Ouais, alors quelqu'un qui me demande, il n'est pas nécessaire d'être fou pour être écrivain, mais est-ce que ça aide?
Est-ce que ça sert d'être écrivain quand on veut devenir fou, c'est ça?
Ah, ça marche aussi dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre à celle-ci. Par contre, on peut peut-être faire tourner les micros.
D'accord, okay.
Si déjà il y a des questions, j'ai vu un bras qui s'est levé par là.
Ouais.
Deux bras. Oh.
C'est quelqu'un qui fait des squats.
Les gens qui se réveillent.
Alors,
fait.
Je vous préviens, on n'est absolument pas obligé de poser des questions.
Non, on peut aussi.
Ah. Parce qu'on finirait tous plus tôt, en plus.
Pourquoi on a un micro?
Oui, les micros circulent. Ouais, c'est bon. Et alors, les gens qui nous connaissent, c'est pas du jeu s'ils posent des questions.
Pardon?
Non, si, c'est du jeu.
Allô? Dis pas ça, on n'aura personne.
Bon, il faut que je choisisse dans ce que je pose comme question. Bah, j'en ai plein.
Si, oui.
Où êtes-vous?
Ouais, ici.
Ah oui.
Bon. Merci.
Juste pour rebondir encore comme œuvre, peut-être, où transpire une certaine souffrance de la folie, j'ai pensé après à l'autobiographie d'Adolphe Wöfflich. Dans le même genre un peu que le Mémoire du névropathe.
Je ne connais pas du tout, qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est un peu le même genre qu'un névropathe de Schreber, mais c'était en Suisse, à la clinique Waldau. Ça a inspiré Blaise Cendrars dans Mora Vagine.
Ah, mais tu as un accent suisse d'ailleurs.
Oui, oui.
Ah, ouais.
et puis en fait, il était interné pour schizophrénie dangereuse. Il a écrit 20 000 pages de son autobiographie où il est le fils maudit de Dieu.
Schreber, il dit ça aussi.
Ouais,
non,
bah,
lui, il est la femme de Dieu.
Ouais.
À un moment, il change de sexe.
Oui, parce qu'il y a cette problématique du changement de sexe et de l'homosexualité.
Ouais.
Ouais. Il y a son homosexualité chez Schreber, puis pour finir, il a...
Ah, tu connais, tu l'as lu?
Oui, bah...
Tu fais des études de psychiatrie, peut-être?
Je suis interne en psychiatrie.
Ah, bah voilà.
c'était j'ai juste pensé à ça. Autrement, oui, bah, j'ai pensé par rapport à la normalité. Je pense que c'était intéressant les échanges qu'il y a eu.
Merci.
En psychiatrie, on parle souvent du modèle biopsychosocial pour parler de l'influence multiple entre le biologique, donc toutes ces découvertes qu'on a fait, l'influence des traitements pharmacologiques, etc., et la société. Et je pense que ce qui était vraiment important de dire, c'était que, à mon avis, la définition de la folie dans notre société, ce qui dépend, c'est que c'est la société qui fixe la norme de ce qui est un fou et ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prédisposition à la folie et qu'il n'y a pas des gens qui sont fous sans être en contact avec la société. Mais ce qui fait que quelqu'un est fou, qui va être défini comme fou et traitable ou non traitable, ce sera la norme culturelle dans laquelle il vit.
Ouais, ce sera la clinique.
Ça va être basé sur des symptômes.
Il y a quand même des pathologies qui révèlent de symptômes physiques, enfin pas de symptômes, mais du physique.
Ce sera toujours, chaque société va déterminer ce qui est la limite de l'acceptable, du non acceptable, même si la clinique reste toujours la même. C'est pour ça que quand on peut lire des textes anciens, quand on peut lire dans l'Odyssée, dans l'Iliade, on peut retrouver des symptômes qu'on définit a posteriori comme étant une décompensation maniaque. On imagine qu'il était probablement une décompensation maniaque chez Hercule.
C'est pas de la projection aussi.
La clinique est
question,
pas.
Pardon.
Alors. En même temps, des fois,
dans la société aussi. Enfin, je veux dire, c'est. Tu ne peux pas dire que c'est une acceptation des normes d'une société alors que la clinique est toujours la même. La clinique fait partie d'une société et forge la société. Oui, c'est un jeu de...
Il y a des références qui évoluent. La référence mondiale, le DSM-5 maintenant, je crois.
Ouais.
Ah oui, mais là, c'est pour vendre des molécules. Non. C'est différent.
Ça te classifie. Si tu prends le DSM-2, ça indique que l'homosexualité est une maladie mentale. Dans le DSM-3, plus. L'autisme est une névrose dans le 3, un syndrome neurologique dans le 5, et ça change complètement la façon dont la clinique, justement, comme tu dis, va prendre en charge la chose. Au lieu d'interner, on va soigner chimiquement. Tu vois.
La société, effectivement, indique les règles, les catégories, mais effectivement, ces règles et ces catégories, et la société elle-même change aussi. Donc,
Les symptômes sont les mêmes depuis, en tout cas, sur les 150 dernières années. Les symptômes psychiatriques, la sémiologie, elle n'a pas changé.
Ça bouge pas, oui.
Les syndromes, la manière dont on classifie les syndromes, ça évolue. Et ça évolue en fonction de la norme sociale, ça évolue en fonction des connaissances scientifiques, en fonction du modèle biopsychosocial. Et ça, c'est ce qu'on va définir, à quel point on considère que c'est agressif, qu'il faut interner tout ça. Ça, c'est la norme sociale. Oui, mais la sémiologie, elle est la même depuis 150 ans, en tout cas.
D'accord.
Et probablement qu'elle est la même depuis 2000 ans, parce qu'on a le même...
Est-ce qu'il y a une société ou un moment dans l'histoire...
Je me permets de lever la main, parce qu'on va aussi faire tourner un peu le micro. Mais vas-y, termine pendant ce temps-là. Et merci beaucoup pour l'intervention, parce que comme on manquait d'un spécialiste, là, on l'a eu, et en plus, gratuitement.
Non, mais il y a un truc qui m'étonne beaucoup.
Même payer son entrée.
Est-ce qu'il y a eu un moment où, dans l'histoire où les gens qui voulaient tout le temps accumuler plus d'argent ont été considérés comme déviants mentaux ?
Oui.
Les milliardaires.
L'avarice fait partie. Et l'avarice, c'est dans le DSM-5.
Pardon ?
J'ai dit chez les Grecs, la pléonexie. Ouais. Effectivement, une maladie dont il faut gravement se défier parce qu'elle peut conduire à ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Donc ça a été classifié à la base
et
comme
pas depuis,
une déviance.
Donc,
mais après, on en a fait.
Je me rappelle avoir lu un paragraphe sur le sujet dans le DSM-5 parce que en fait tout comportement qui devient extrême finit par être pathologique.
Mais et Bernard Arnault, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas interné en fait ?
Peut-être qu'il compte pas les sous et il plonge pas dans une piscine d'or et des trucs comme ça.
Parce que c'est à lui les cliniques, ok ?
Alors on fait tourner le micro
qui
là.
Écrit le DM,
qui est le suivant.
Je sais plus combien.
Juste un truc, c'est quoi le
DSM-5.
C'est quoi?
C'est le recueil de toutes les pathologies psychiatriques.
Et c'est l'association américaine de psychiatrie qui édite régulièrement ce manuel, en fait.
Qui est traduit en français aussi.
Diagnostique, et qui classifie, en fait, qui catégorise, en fait, les pathologies mentales.
Et donc, c'est le livre de référence en psychiatrie. Il existe une version mini assez facile à se procurer. Et c'est très utile quand on est auteur, je trouve.
Okay. Et tous les ans, il y a de nouvelles pathologies, genre un enfant qui est mal poli. Par exemple, il va falloir lui donner des molécules.
Non, c'est pas...
C'est écrit par des labos pharmaceutiques.
Ça ne marche pas comme ça. Bon, par contre, la question suivante, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Je voulais revenir, en fait, sur Lovecraft. Je suis d'accord avec vous, en fait, quand vous avez dit que les
vous
personnages... Ah, ici. Les personnages, en fait, dans les œuvres de Lovecraft, ils deviennent fous lorsqu'ils sont en face, quand ils sont confrontés, en fait, à une entité, une horreur... qui ne peuvent comprendre est-ce que en fait au final la folie n'est pas ce qu'on ne peut rationaliser et au final les personnes folles sont des personnes qui nous semblent irrationnelles. On peut revenir un peu en fait sur ce que vous avez dit par rapport à Bernard Arnault, pourquoi il nous semble fou, c'est parce que sa logique ne nous semble pas rationnelle, pourquoi il accumule autant, ça en dehors de notre logique, est-ce que la folie ça serait pas ça, ça serait l'irrationalité?
Je pense que ça rejoint ce que disait Jean tout à l'heure sur le côté effectivement on a une espèce de bouée rationnelle qui nous, et quand on se rend compte qu'effectivement on est quelque chose de vraiment petit, minuscule et perdu par rapport à une créature Lovecraftienne quelconque, c'est là finalement que se fait le basculement dans la folie. C'est question de différence d'échelle, je pense, et différence d'univers.
Oui, c'est une façon de mettre en scène le besoin qu'on a tous d'avoir une unicité, comme on disait tout à l'heure, du moi, c'est-à-dire de penser qu'on a toujours été le même être humain à travers le temps. Et aussi un sentiment que bon, l'expérience humaine a un sens, qu'elle compte. Et que même si on est pris dans des vies compliquées et qu'on s'enferme dans des rames de métro pour aller travailler, on a besoin de se dire qu'il y a une rationalité derrière tout ça. Et du reste, il y en a une, celle qu'on nous vend depuis la révolution industrielle, c'est l'idée que voilà, on va... produire et surproduire et que ça va générer un accroissement du bien-être matériel qui lui-même générera un accroissement du bonheur spirituel, etc. C'est une fable, c'est un mythe dans lequel on a tous grandi et qui amène le besoin d'avoir un consommateur, un travailleur, etc. Je ne dis pas que c'est bien, je dis on a besoin de penser que tout ça c'est important. Si on se retrouve face à une créature de la taille d'une galaxie et qui n'a même pas conscience que nous existons, alors je ne sais pas si c'est de l'irrationalité ou en tout cas c'est une incapacité à rationaliser ça. Alors ça. Peut-être que ce qui rend fou, c'est non pas d'être forcément irrationnel, je dis bien rendre fou, pas être fou, parce que c'est quand même pas la même chose. Mais ce qui peut rendre fou, c'est de se rendre compte que peut-être on ne peut pas rationaliser, on ne peut pas s'auto-rationaliser, que l'expérience humaine n'a aucun sens, en tout cas que nous soyons capables d'exprimer. Et oui, ça revient un peu, ceci dit, à ce que vous disiez, mais je trouve que la force de Lovecraft, c'est ça, c'est de nous mettre face à de façon romanesque, et de nous mettre face à cette angoisse de se dire, mais au fond, peut-être que on est perdu, enfin que en fait qu'on ne peut pas concevoir notre place dans l'univers. Et oui, je pense que cette incapacité de rationaliser peut rendre fou.
Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord. On ne se rationalise pas soi-même. C'est-à-dire notre existence ne prend son sens que en échange avec les autres. En fait, la folie, c'est la solitude. Fondamentalement. Parce que si c'était juste l'irrationalité, les mystiques seraient fous. La foi, c'est irrationnel. Mais d'ailleurs, il y a des textes de mystiques qui présentent la foi comme une forme de folie. Hein.
Mais c'est aussi du point de vue extérieur. C'est que les gens qui observent le fou n'arrivent pas en fait, à expliquer sa logique, à rationaliser ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il fait.
Mais je ne sais pas ce que tu entends par rationaliser, mais en tout cas, on peut trouver une logique dans la folie.
Oui. Alors on passe
rationaliser, est-ce qu'il n'y a pas un terme sous-jacent plus ou moins économique, finalement? voire productiviste.
Alors,
je ne sais pas.
On a une autre question, parce qu'il reste que 5 minutes. J'aimerais qu'il y ait une ou deux questions de plus quand même. Puis bon, j'en reçois une autre sur Twitter, si je peux avoir 30 secondes pour la sortir.
C'est bon, la parenthèse est fermée.
Où êtes-vous?
Levez la main.
Il y a deux mains, il y en a un qui triste. Là
non. Okay.
Bonjour.
Allez-y.
Je vais essayer d'être bref. Tout à l'heure, vous parliez du fait que la folie, pour vous, c'était essentiellement de la souffrance. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Premièrement, parce qu'il y a eu notamment des études.
On n'a jamais dit ça.
Ah,
je crois qu'on a dit ça.
Il y avait de la souffrance.
Oui, oui, alors peut-être pas toi, mais en fait, on est plusieurs sur la table.
D'accord, pardon.
je dis vous. Bien.
Il y a une super ambiance.
Déjà, premièrement, et là, peut-être que du coup, le monsieur qui est interne en psychiatrie pourra aussi témoigner de ça. Il y a eu des études de fait, notamment sur la schizophrénie, comme quoi dans d'autres cultures, où le fait d'entendre des voix ou halluciner, c'est plus effectivement lié à la foi et comme un cadeau des dieux. Les schizophrènes, entre guillemets, le vivent beaucoup mieux. Et il y a de bien meilleurs taux de rétablissement que dans nos sociétés occidentales. Premièrement, et deuxièmement, il y a aussi une autre figure à laquelle je pensais en fiction, qui est celui de l'imbécile heureux, et tout ce qui touche à la folie douce. Du coup, quid de l'imbécile heureux et de la folie?
Quelqu'un?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le premier point. Effectivement, ça rejoint ce que disait le monsieur qui était intervenant, à savoir que c'est la société qui fixe les... qui fixe justement la définition de ce qui est la folie, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable en société. Et effectivement, oui, il y a des sociétés qui intègrent beaucoup plus des profils pathologiques, on va dire, qui dans nos sociétés sont moins bien. Et rien que ça, je trouve que c'est aussi, et là, tout d'un coup, je passe en mode auteur, je trouve ça aussi intéressant en tant que créateur de fiction, en fait. Effectivement, là, il y a quelque chose à développer sur ce genre de différence de perception.
On a un exemple, hein, Jeanne d'Arc, hein, elle a vécu... dans le bonheur après avoir vu la Vierge.
Pas longtemps.
Ouais, mais
pour la longévité, hein. C'était.
Ça a mal fini.
Non, mais.
Mais bon. La folie douce, moi, ça m'évoque des choses que un peu mièvre. Et bon, je pense pas que vous vouliez dire ça. Je comprends. Enfin, je vois pas trop parce que ça m'évoque des trucs genre Alexandre le Bienheureux. Enfin non, c'est même pas ça. Mais c'est un.
Est-ce qu'il n'y aurait pas forcément de quoi faire de l'intrigue sur un truc trop gentil
Détends-toi, je pense qu'effectivement, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, il y a ce côté-là aussi, en fait. Il y a le côté l'absurde. Là encore, je suis en termes de fiction. Il y a un côté assez... Même si en réalité, c'est quand même un bon matériau à cauchemar, quand même, la partie de Téchelle Chapelier. Bah, mais en réalité, il y a une certaine aussi légèreté, en fait, dans ce type de scène. Donc c'est aussi intéressant à exploiter en termes de fiction. Et effectivement, il y a un côté... La folie douce, c'est aussi le personnage de l'excentrique. C'est des personnages qui peuvent être foncièrement hyper attachants. Quoi. C'est plutôt intéressant de jouer avec ce genre de type, en fait.
Une petite dernière. 2 minutes 40, c'est jouable.
J'ai le micro. Bon, j'ai pas vraiment de questions, mais
vous êtes tout en haut là.
C'est ça. Oui, c'est ça.
Ah oui.
Juste, je voulais revenir sur le jeune homme qui fait son internat en psychiatrie, qui disait que les sémiologies ne bougeaient pas depuis des années et des années. Mais pour moi, le social influence quand même grandement la symptomatologie des différentes affections psychiques auxquelles on est.
Vous faites vous-même des études en psychiatrie?
Je suis psychologue, mais...
D'accord. Je trouve que le public est plus calé que nous.
Moi, je préfère la prochaine fois...
monter sur la scène, plutôt.
Je pense que la prochaine fois,
on s'assied, on les met là.
On prendrait des notes et on serait hyper heureux, vraiment.
On posera des questions au public et...
Non, mais juste pour rebondir que l'hystérique de Charcot n'est pas l'hystérique de nos jours, que le délire schreberien était quand même vachement influencé par aussi les discours sociétaux de son époque. Enfin,
alors, monsieur, que répondez-vous à cela?
Mais que quand même, enfin, les discours, et c'est peut-être aussi pour ça que le DSM, même si on peut le critiquer, grossit d'année en année, parce que finalement, il se fait aussi le témoin de toutes les nouvelles symptomatologies de nos jours, et peut-être que c'est une des raisons pourquoi il est de plus en plus... On va dire,
et des intérêts des laboratoires.
Étoffés, oui. Je serais d'accord avec vous, mais je ne vais pas... C'est un tout autre débat, mais... enfin, voilà. Et sinon, je trouvais très intéressant, effectivement, au tout début, quand vous nommiez que les... Pardon, les livres, certains films mettent en évidence au-delà de la folie, la question de la présence d'un autre en soi. Et je pense que ça, finalement, ça concerne tout à chacun, cette question de l'autre en soi. Chacun de nous, nous n'avons pas accès à une partie de nous-mêmes. Enfin, on est insu à nous-mêmes et c'est quelque chose qui est aussi relayé, je pense, dans la science-fiction et dans toute cette art.
Et dans la fiction générale, oui, c'est un oui. Très bel axe, oui.
Oui.
Et dans la psychanalyse. Mais très joli mot, insu. J'aime
oui,
beaucoup.
Bah, je pense que
et monsieur était directement agressé. Donc,
oui, mais alors il reste 30 secondes, donc je crois qu'on va plutôt. Ouais, bah, alors il y a des questions Twitter, je leur répondrai que désolé, j'ai pas eu le temps. Ils sont peut-être là d'ailleurs. Là, bah, c'est un peu court, il faudra laisser la place. Et je
il y a des gens qui seraient là qui auraient posé des questions oui. Sur Twitter.
Ouais. En fait. Mais moi, je tenais absolument à avoir le mot de la fin, si tu permets. Hein ? Et donc, parce que, avant de nous quitter, je voulais signaler.
Si j'ai trop parlé, faut le dire.
Je vais balancer lui un truc.
On vous le dira tout à l'heure.
Je vous signale donc deux films qui passent dans le cadre du festival cinéma. Il y a L'Antre de la folie de Carpenter, qui est mon plus beau flip au cinéma et mon préféré de Carpenter, donc je vous le recommande. Mais il a peut-être un peu vieilli, mais bon, tant pis. Et il y a Abre los ojos, donc c'est Ouvre les yeux d'Amenabar, qui est une version bonne de Vanilla Sky. En fait, c'est l'original. Et franchement, il faut le voir, c'est vraiment un très beau film. Peut-être le premier film espagnol que j'ai vu, maintenant que j'y pense. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été un très bon public, très compétent. Et la prochaine fois, on inversera les places. Merci à tous. On sort dans l'ordre.
Ouais, je suis complètement d'accord.
Ça y est, il a réussi encore.